Alors, eh bien, on vient de se rappeler, il y a une quinzaine de jours, la naissance de Jésus-Christ. C'était Noël, donc voilà, on a parlé de ce petit bébé dans la crèche. Et puis, on a eu l'occasion aussi de faire connaissance de Lemuel Maurice, hein, voilà, petit bébé de Tristan et Ruth, hein, qui était donc avec nous le 21. Et puis, donc cette semaine, il y a eu une petite Abigail Bougie. Donc, c'est Sébastien et Céline. Donc, Céline, la fille de Mireille, donc cette petite Abigail est née le 1er janvier à 1h30. Donc voilà, ils ne sont pas avec nous ce matin, mais vous pouvez penser à eux, hein, prier pour eux. Ils sont installés dans leur nouvelle demeure. Et quand on voit un petit bébé, un enfant, on se dit c'est vraiment merveilleux, quoi. On vient de recevoir des photos de la sœur de Kimberly. Donc, elle a eu un troisième enfant. On voit ce petit cœur-là qui sourit. C'est un rayon de soleil, cet enfant. C'est vraiment du bonheur, une naissance, une vie, hein, une nouvelle vie qui est donnée. Et on peut dire que, en fait, la naissance, c'est la première preuve de l'amour de Dieu. Le fait que Dieu nous aime, il nous permet de naître dans cette vie. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble cinq preuves de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime et il nous le montre de cinq manières. Donc d'abord, la naissance, c'est, on peut dire, la première preuve de son amour pour nous. Dieu nous accorde de vivre, il nous accorde d'exister, simplement d'exister sur cette terre. Et la vie est un vrai cadeau de Dieu, une grâce qu'il nous fait. Psaume 139, versets 14 à 17, où c'est le roi David qui dit ces paroles. 139, verset 14, il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Et Dieu voit chaque petite âme qui naît, chaque petit enfant, hein, et pour chacune, on peut dire, cette vie est un trésor. Une vie physique qui va pouvoir expérimenter toutes sortes de joies terrestres. C'est le bonheur de simplement respirer chaque jour, hein. Le bonheur de goûter aux bienfaits que Dieu donne. Alors, ça peut être très basique, hein, mais rien que manger, boire, c'est déjà un bonheur, hein. Là, on revient de chez mes parents et mon beau-père est cuisinier. On a vécu une explosion de saveurs et de goûts. C'était merveilleux, hein, c'était vraiment merveilleux. Et c'est vrai que c'est un plaisir, hein, simplement de manger des bonnes choses. Que dire aussi de l'odeur d'une rose? Vous sentez une belle rose parfumée, là? Oh, c'est agréable, hein? Ou de sentir de la lavande. C'est vraiment très agréable. Il y a aussi le bonheur d'être rassasié au niveau des yeux, visuellement, de plein de belles choses, hein? La création, elle est riche en couleurs, elle est riche en diversité, plein de choses qui sont belles à voir. Quand on sait prendre le temps de regarder, on voit que la création est magnifique, des poissons de la mer jusqu'aux oiseaux du ciel, tout est merveilleux. Mais Dieu nous a fait aussi avec une sensibilité. Il y a le sentir, il y a aussi le ressentir au niveau de l'âme intérieurement. On ressent des choses et ça, c'est aussi un bienfait que Dieu nous accorde. Le bonheur d'expérimenter l'amour, d'aimer, et d'être aimé, de se savoir aimé, c'est aussi quelque chose qui est très agréable. Dieu rassasie aussi nos oreilles. Simplement entendre le son d'une rivière, c'est agréable. Entendre le son des oiseaux, d'entendre le vent dans les branches, dans les feuilles, d'entendre le tonnerre ou d'entendre de la belle musique, c'est agréable, ça fait du bien à notre âme. Dieu a créé des harmonies qui nous font du bien, qui nous apaisent, qui nous portent, qui nous élève, qui nous stimule aussi, qui suscite des émotions. Il y a plein d'émotions dans la musique. Et Dieu nous donne ses bienfaits. Il les répand avec largesse sur tous les hommes. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça veut dire, au travers de la pluie, il y a l'idée d'une moisson qui est abondante, hein, une culture qui est abondante. Et ça veut dire que Dieu bénit tous les hommes. Il bénit tous les hommes, même les méchants, il les bénit. Il leur fait du bien. Dieu rassasie de grâce et de bienfaits tous les hommes, sans exception. Pourtant, si je m'arrêtais là, la description serait fausse, en fait. Hein, correspondrait pas à la réalité. Oui, Dieu bénit tous les hommes, mais est-ce qu'il ne faut pas mentionner quand même la souffrance? Il y a tout ça, mais il y a aussi la souffrance, elle existe. Hein. Certes, la vie physique est une bénédiction et Dieu couvre de bienfaits les hommes, mais la souffrance existe. Job a dit dans la Bible, il a dit « Périsse le jour où je suis né ». Voilà, « Périsse le jour où je suis né », qu'il souhaitait qu'il n'existe pas ce jour. Le prophète Jérémie a dit quelque chose un peu dans le même acabit. Il a dit « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni ». Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils souffraient. Ils souffraient dans leur âme. Imaginez un monde où il n'y a pas de souffrance, pas de peine, pas de maladie, pas de maux, pas de pleurs, pas de choses négatives. Et vous avez tous cette création que je viens de vous décrire, mais sans la souffrance. Ce serait le paradis, hein. Ça serait vraiment merveilleux. Quelque chose de vraiment, ça permettrait d'apprécier encore plus la vie, comment elle est belle. Mais la souffrance frappe tous les hommes. Et selon l'endroit où on est, le pays où on est, la famille où on est, la souffrance, elle peut même nous frapper même très très jeune. Hein? C'est pour tous les hommes. Et on peut se demander, mais pourquoi? Et la souffrance, elle est aussi un avertisseur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Elle est un avertisseur. Et quelque part, la souffrance peut être aussi une preuve de l'amour de Dieu. Hier, il y a notre fils Joshua qui nous dit « Mais pourquoi, papa, pourquoi ça fait mal quand on se coupe ou quand on se brûle? Ça serait mieux si on ne sentait rien. Ben voilà, on se couperait, on n'a pas mal ou on se brûle et on a pas mal. » Alors, on lui a expliqué que Dieu nous a pourvus avec des nerfs et c'est un bienfait parce que quand on se coupe, voilà, on sait qu'il y a un problème, on s'arrête, on regarde et puis on va essayer de penser, on va essayer de prendre soin, de l'appeler, on va faire quelque chose, intervenir, parce que cette souffrance nous avertit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la souffrance est un avertisseur. Elle nous prévient de l'importance d'intervenir, de faire quelque chose. Alors bien sûr, on peut distinguer plusieurs souffrances, plusieurs types de souffrances. Il y a la souffrance dont on est victime. Il y a des souffrances, voilà, c'est vraiment pas de notre faute, on n'y peut rien et on est victime. Les enfants sont souvent victimes de la souffrance, c'est pas de leur faute. Parfois aussi, on est responsable de notre propre souffrance. C'est différent, mais c'est aussi une souffrance. Mais la souffrance, quelle qu'elle soit, elle doit nous pousser, qu'on soit victime ou qu'on se rende compte qu'on a fait souffrir, elle doit nous pousser à chercher une réponse, à chercher un soulagement, si c'est possible. L'Ecclésiaste a dit, donc l'Ecclésiaste, c'est en fait le prophète et le roi Salomon qui a écrit un livre, il a dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Donc, au jour du malheur, au jour de la souffrance, il dit « Réfléchis, réfléchis ». Ça, c'est le conseil que Dieu donne. Dieu a permis le bonheur, mais il a permis aussi la difficulté, le malheur, pour que bien on réfléchisse et on se soucie finalement de l'au-delà. On se soucie de ce qu'il y a après. Et la souffrance, logiquement, devrait nous pousser à chercher une solution. Et pourquoi? Une réponse, quelque chose. Et il faut le chercher auprès de Dieu. En fait, c'est un appel à nous tourner vers lui. Regardez ce verset. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Voilà, quelqu'un souffre, eh bien, qu'il cherche auprès de Dieu, qu'il se rapproche de Dieu, qu'il ait le désir de vivre et de se rapprocher de lui. Et le malheur, c'est que même parfois dans la souffrance, l'homme refuse l'idée de s'approcher de Dieu et il s'endurcit, il se blinde, il ne veut pas s'approcher de Dieu, il ne veut pas crier vers Dieu. Ou bien, il fait le choix de tomber à genoux et de chercher, chercher Dieu, chercher une réponse. Et il y aurait bien des choses qui changeraient sur cette terre si tous les hommes, chaque fois qu'ils souffraient, tombaient à genoux et demandaient à Dieu, mais pourquoi ? Où en suis-je ? Mais Dieu laisse la liberté de choisir. Et ça, c'est une deuxième preuve de l'amour de Dieu. Dieu nous aime et Dieu nous laisse la liberté de nos propres choix. C'est vraiment une preuve d'amour. La liberté de s'autodéterminer, de prendre des décisions, d'aller à droite, d'aller à gauche. Et dans la souffrance, ben, soit on va chercher vers Dieu, soit on va refuser, on va s'endurcir, on va réfuter même peut-être sa présence. Et cette liberté que Dieu nous accorde, c'est une preuve d'amour. Si on réfléchit à l'esclavage, qu'est-ce qu'on pense de l'esclavage ? On se dit, mais l'esclavage, c'est vraiment horrible. Heureusement, l'esclavage a été aboli dans beaucoup d'endroits du monde, même si malheureusement, il y a encore des vendeurs d'hommes, comme dit la Bible. Qu'est-ce que nous aurions dit si nous avions été programmés et dans l'obligation d'aimer Dieu ? Esclave obligatoire. Quelle réaction, eh bien, il y aurait eu en nous ? C'est une grâce de pouvoir prendre une libre décision et de choisir sa direction. Quand un enfant est tout petit, c'est nous qui prenons les décisions pour lui. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, eh bien, petit à petit, eh bien, on lui donne le choix, on lui laisse choisir. Et puis, plus il grandit, plus il doit faire des choix. Finalement, on est en train de le préparer à gérer sa liberté, la liberté de choisir. Et c'est une preuve d'amour que de donner de la liberté, de plus en plus de liberté. Et Dieu laisse chaque être humain libre de choisir ou de le refuser. Regardez ce que Josué a dit au peuple d'Israël. Josué 24, verset 14. Il a dit, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Josué ici parle d'un choix. Israël était libre. Il fallait qu'ils fassent un choix libre de croire dans toutes leurs idoles de pierre et, vous savez, ces morceaux de bois qu'ils priaient, mais de qui ils n'avaient pas de réponse, ou bien libre de faire confiance en l'Éternel qui les avait délivrés du pays d'Égypte. Et ce choix, il est exactement le même pour nous aujourd'hui. On est libre, soit de refuser Dieu, soit de l'accepter, soit de le rechercher. On peut vivre pour soi-même ou vivre pour lui. Et on voit que dans ce temps-ci, Dieu n'impose pas, il n'oblige pas les hommes à le suivre, à l'aimer, à le chercher. Il ne nous tord pas le bras pour qu'on vienne à lui. Il laisse les hommes libres. Et quand vous lisez les évangiles, c'est frappant de voir que Jésus lance des invitations. C'est simplement des invitations. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Une invitation. Il dit encore, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Et on voit à chaque fois des invitations, des mains tendues. Il ne force personne. Il exhorte, il convainc, il essaye de persuader, c'est vrai, hein? Mais il ne force pas. Et ça, c'est la liberté de chacun de dire, ben non, c'est pas ce que je veux. J'en veux pas. Mais si l'homme fait ce choix de repousser l'offre de Dieu, alors les bienfaits de Dieu et les manifestations de l'amour de Dieu s'arrêtent pour lui. C'est-à-dire, il a connu et il connaîtra les bienfaits de la vie physique, hein, comme on en a parlé. Il aura toujours cette liberté de choix, d'action, mais ça s'arrête là. On a lu tout à l'heure, hein, « Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Et il ne faut pas oublier que On a une vie, mais après, il y a un au-delà. Tout ne s'arrête pas à la mort. Il y a quelque chose qui se passe encore après. Et si on ne choisit pas Dieu ici-bas, alors eh bien, on ne sera pas avec Dieu quand on mourra de l'autre côté. Et si Dieu... Imaginez Dieu. Voilà, vous essayez d'enlever tout ce que vous connaissez de la Bible. Imaginez Dieu. Eh bien, Dieu, vous ne pouvez le voir que comme quelqu'un qui est pur, qui est saint, qui est juste, qui est vrai. Il est absolu, hein. Dieu est lumière, Dieu est parfait. Maintenant, imaginez que vous n'êtes pas avec Dieu. Alors, eh bien, vous êtes dans le contraire. C'est le contraire. L'absence de Dieu, c'est tout le contraire. Et donc, la manifestation de l'amour de Dieu s'arrête ici-bas. Elle s'arrête aux choses de cette terre pour tous ceux qui le refusent pendant qu'ils sont sur cette terre. Mais pour ceux qui ont soif, qui disent « Mais oui, je suis vivant, merci Seigneur, je suis libre, merci Seigneur, mais j'en veux plus, je veux plus de Dieu, je veux encore plus de son amour. » Alors il y a une troisième preuve de son amour pour nous. C'est que Dieu a donné son Fils. Il nous a donné la vie physique. Il nous a donné la liberté, il nous a donné son Fils, Jésus-Christ, qui est venu mourir pour nos péchés. Et ça, c'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Regardez Romains 5, versets 3 à 8. C'est l'apôtre Paul qui dit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ... au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et je m'arrête sur ces derniers mots. Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, encore des impies, loin de Dieu, sans force, Christ est mort pour nous. Nous étions mauvais, on méritait strictement rien, mais pourtant, Dieu a envoyé son Fils qui a accepté de mourir pour nous. Et la Bible dit que ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour nous, pour chacune de nos âmes. Imaginez, vous avez un voisin violent, méchant, vulgaire, et vous le savez coupable d'avoir commis un délit. Peut-être vous avez été témoin. Vous l'avez vu. Et la police cherche le coupable, mais ne sait pas qui est le coupable. Par contre, elle sait qu'il habite dans votre rue. Et vous voyez la police arriver, essayer de chercher. Et c'est vous qui venez, vous êtes innocent, mais vous vous dénoncez comme le coupable. Comme si vous aviez commis le crime. Vous êtes embarqué, condamné, jugé. Ça semble insensé comme histoire, hein. Mais pourtant, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Nous étions les coupables... Nous étions coupables de péché, de toutes sortes de choses que nous avons commises, mais Dieu le Fils a accepté de descendre et de subir le jugement, quoique lui, il était parfaitement innocent et il est mort pour nos péchés. C'est une image de ce que Jésus-Christ a fait. Et ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu, puisque c'est même Dieu lui-même qui descend, puisque Dieu le Fils, Dieu le Père, c'est la même chose. Donc Dieu le Fils descend et Dieu paye lui-même pour nous. C'est quand même incroyable, ça. Il nous crée, il nous laisse libres, on fait le mauvais choix, on pêche, il décide de résoudre le problème en descendant et en payant le jugement de notre péché pour nous. Quelle preuve d'amour ! Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que ça. C'est inimaginable. Alors, eh bien, Dieu peut dire, celui qui se repent et qui croit, je le pardonne. Je lui pardonne ses péchés. Il est pur. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il faut retenir ça. Vous voyez, Dieu est amour. Hein. Dieu nous aime. Il aime chaque homme individuellement, personnellement, intimement. Peut-être plusieurs ont reçu une vidéo de Tristan. Est-ce que plusieurs l'ont reçue ? Oui ? Non ? Je vais vous raconter un petit peu ce que c'est que cette vidéo. C'est quelque chose qui vient d'être fait. C'est une publicité pour une grande enseigne commerciale. Mais ils ont fait une expérience intéressante. Ils ont pris 10 couples avec un enfant Et puis, ils les ont invités à venir, donc à l'occasion de Noël. Et puis, ils ont donné un papier, donc individuellement et séparément, hein, à chaque enfant. Et puis, ils lui ont demandé, voilà, c'est pour le Père Noël. Tu vas écrire tout ce que tu souhaites, tu désires pour Noël. Oh, les enfants, ils se sont éclatés. Hein, ils avaient 6, 7, 8, 9 ans. Et puis, ils ont écrit ça, une longue liste. Hein. Très bien. Ils ont mis la liste de côté. Puis après, ils ont pris une deuxième feuille, ils lui ont donné. Et puis, ils ont dit, maintenant, tu vas écrire. Maintenant que tu as écrit tout ce que tu voulais hein, pour le Père Noël, très bien. Écris qu'est-ce que tu attends de ton papa et ta maman. Et là, les enfants réfléchissent. Et puis, que papa et maman passent plus de temps avec moi. Que papa joue au foot avec moi. Que maman me fasse rigoler. Et là, on voit quoi en fait? On voit l'amour. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin? Amour. On a mis de tout ce qui vient du monde hein, de côté. Voilà, c'est le Père Noël, voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est important? Ben, l'amour. C'est ça, c'est l'amour. Hein. On a besoin d'amour. On a été créés comme ça. On a tous besoin d'amour. Hein. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime chacun. Il nous aime comme un père. Il est notre créateur. Il nous aime personnellement. Et il nous l'a prouvé en descendant sur terre, en s'incarnant dans un corps d'homme et en mourant pour nos péchés. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour pour nous. Christ est mort pour nous. C'est une preuve concrète. Venir à Jésus-Christ. Jésus dit, venez à moi. Il dit, je suis la porte. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Et cette preuve d'amour que Jésus-Christ est venu sur nous, qui s'est donné pour nous, pour recevoir cette preuve d'amour, eh bien, il faut faire un pas vers lui. Il faut venir à lui. Il faut dire, ben, j'accepte, hein, je viens à toi, je crois en toi, je me repens de mes péchés, je te demande de me sauver. Ça, c'est une manière de recevoir l'amour de Dieu. À ce moment-là, ben, Dieu peut nous prendre, en quelque sorte, dans ses bras, quoi, hein, peut nous entourer. Et comment il le fait? Il le fait par le don du Saint-Esprit. Ça, c'est une quatrième preuve d'amour. C'est que Dieu veut nous donner et nous donne le Saint-Esprit quand on vient à lui, quand on croit en lui, quand on se repent de ses péchés. Regardez, on va lire 3-4 versets. Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, regardez Acte 10, verset 45 à 47. 45 à 47. Acte 10. « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Maintenant, regardez Romains 8, verset 9. Il dit, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et regardez maintenant un dernier verset, Éphésiens 1, verset 13. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez entendu ? En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et dans ces quatre passages, on voit que Dieu fait le don du Saint-Esprit vraiment à celui qui se repent et celui qui croit en Jésus-Christ. Et c'est une grâce, c'est un cadeau. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vient habiter littéralement dans notre cœur. C'est ce que dit la Bible. Si on fait une démarche vers lui, on ouvre son cœur, on se repent, on croit en lui, il vient habiter en nous. C'est littéral, c'est véridique et c'est définitif. Donc ça veut dire que certains ont reçu le don du Saint-Esprit et certains ne l'ont pas reçu. Il y a deux types de personnes, c'est ce que dit le verset. Certains l'ont, certains ne l'ont pas encore reçu. Et soit on fait partie des uns, soit on fait partie des autres, mais Dieu nous appelle tous à recevoir son amour. Et recevoir son amour, bien c'est ça, c'est aller plus loin, c'est croire en Jésus-Christ, c'est se laisser prendre dans ses bras, c'est-à-dire laisser le Saint-Esprit entrer dans notre cœur. Ça, c'est vraiment faire l'expérience de l'amour de Dieu, le don du Saint-Esprit. Regardez Jean 14, 16 à 18. Jean 14, 16 à 18, il dit, c'est Jésus qui dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera même en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Mais c'est merveilleux comme parole, hein? C'est merveilleux, merveilleux. Donc il faut se remettre dans le contexte. Jésus dit, voilà, il est avec vous, mais bientôt il va être en vous. Il est en train de parler de la Pentecôte. À la Pentecôte, Dieu a donné le Saint-Esprit qu'il a, à partir de la Pentecôte, est vraiment entré dans le cœur des enfants de Dieu. Il leur a promis le Consolateur, l'Esprit de vérité, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Pour toujours, c'est définitif. Et Jésus dit, le monde ne le voit pas, le monde ne le connaît pas. Le Saint-Esprit, c'est rien en fait. Pour le monde, c'est rien du tout. Ça n'existe pas. Mais pour celui qui a fait l'expérience, qui a cru en Jésus-Christ, qui s'est repenti, qui a dit « Seigneur, sauve-moi oh !» Il goûte à l'expérience du Saint-Esprit. Et après, il dit « Ben oui, moi je le vois maintenant. Moi j'ai une communion avec Dieu au travers de son Esprit. » Et c'est quelque chose de merveilleux. Il sera en vous. Il vient vraiment habiter dans le cœur de celui qui le reçoit. Et recevoir cet Esprit, ben, c'est recevoir Dieu lui-même. Dieu fait de notre cœur son habitation, son temple, dit la Bible. Et Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc c'est Jésus lui-même qui vient en nous par son Esprit. Regardez Jean 14, 26. Jean 14, 26, hein, il dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc l'Esprit qui vient en nous, il est celui qui nous enseigne, il est celui qui nous éclaire, qui illumine notre cœur, notre intelligence, pour qu'on comprenne la parole de Dieu. Et on est témoin de ça. Hein? C'est une vérité. Au début, la Bible, ça semble un peu, c'est difficile. Mais l'Esprit, quand on le reçoit, il éclaire la parole de Dieu, qui devient limpide, qui devient claire. Donc, il est comme un guide fidèle qui indique la direction, qui dit, ben, prends plutôt à droite, prends plutôt à gauche. Et il faut remarquer ce titre de consolateur. Je lisais un tout petit commentaire sur H.E. Alexander, le père Alexander, très bon commentaire sur le Saint-Esprit, et qui disait que ce terme de consolateur, il faut y prêter attention pour voir tout ce qu'il suggère en amour, consolateur, amour, compréhension profonde, intime, compassion divine. Il dit encore, sous la Nouvelle Alliance, quand le Consolateur peut librement agir dans une vie, la tristesse est changée en joie, l'indigence en abondance, les ténèbres en lumière, la défaite en victoire. Et ceux qui participent aux souffrances de Christ, parce qu'il y a toujours des souffrances, reçoivent l'assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, alors ça change tout, ça bouleverse notre vie. Quand il nous le donne, il nous accorde la plénitude de la puissance divine, la puissance de Dieu, si nous croyons, si nous obéissons, si nous marchons avec lui. Et la présence du Saint-Esprit, c'est un vrai changement qui bouleverse, qui donne du sens à la vie. Regardez 2 Corinthiens 5 et verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et recevoir le Saint-Esprit, c'est tourner la page, vraiment comme ça. On tourne la page sur une vie passée. Et on entre dans une vie qui est nouvelle, une vie qui est transformée, une vie qui est sanctifiée, une vie qui est maintenant destinée à être vécue pour Dieu, plus à vivre pour nous-mêmes, mais à vivre pour Dieu. Tout à l'heure, on a chanté « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. » Eh bien, c'est une réalité. Dieu le donne, il l'offre à celui qui l'accueille dans son cœur. Et c'est encore là une preuve d'amour. Dieu peut reconstruire ce qui est détruit, ce qui est ruiné. Et plusieurs ici peuvent en témoigner, et moi-même je peux en témoigner. Dieu prend des vies qui sont abîmées, qui sont parfois brisées, qui semblent en lambeaux, et il donne de vivre un nouveau commencement. Il reconstruit, il offre un nouveau départ. Mais maintenant pour vivre pour lui, en Dieu et pour Dieu. Et le don du Saint-Esprit, c'est une grâce de Dieu. En fait, c'est recevoir d'un seul coup tout ce qui nous manque, puisqu'on reçoit Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est lui qui vient nous donner la force là où nous sommes faibles. C'est lui qui nous donne la douceur là où nous sommes durs. C'est lui qui vient nous donner la grâce là où nous sommes peut-être légaliste. C'est lui qui nous donne la sagesse là où nous sommes insensés, la retenue là où nous ne savons pas nous maîtriser, l'amour là où nous en manquons. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus qui vient habiter en nous. Donc c'est l'Esprit de Jésus qui vient imprimer son caractère, son visage, sa personne. C'est ce qu'il veut faire en fait, imprimer sa personne dans notre cœur. Nous sommes, nous, imparfaits pécheurs, mais le Christ parfait et saint veut venir habiter dans notre cœur pour nous transformer. Et puis enfin, une dernière preuve, et je m'arrêterai ici, preuve d'amour de Dieu, c'est que Dieu nous donne des certitudes. Il nous donne des certitudes, parce qu'il nous donne des promesses qui sont véritables, sur lesquelles on peut se reposer. Et ça donne une vraie espérance pour le futur. Quand vous achetez une maison, si le propriétaire qui veut vous vendre sa maison lui dit « Oui, il n'y a pas de problème, je vous la vends. Dans 15 jours, on signe. » Vous savez, tant que vous n'avez pas signé le compromis de vente, tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais une fois que vous avez signé, alors là, vous vous sentez soulagé. C'est bon, il est engagé. S'il veut briser ce compromis, eh bien, ça va lui coûter quelque chose. Donc, ça y est, c'est plus solide, c'est sûr. Eh bien, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a signé, et il a signé lui-même, un compromis d'accès au ciel. C'est sûr. Bon, on est sûr d'aller au ciel parce que Dieu s'est engagé par plein de promesses dans sa parole. Il a dit que celui qui se repent, celui qui croit en son Fils, qui l'accepte dans son cœur, alors il a la promesse, il ira au ciel. Il a la vie éternelle et il ira au ciel. C'est Dieu qui s'engage. Et Jésus-Christ a signé, on peut dire, de son propre sang. Il a signé par sa mort. Regardez cette promesse. 1 Jean 5, 12 et 13. 1 Jean 5, 12 et 13. Il dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » C'est une promesse, c'est un engagement. Celui qui reçoit le Fils dans son cœur, c'est le don du Saint-Esprit, alors il a la vie éternelle. C'est quelque chose de certain. Dieu l'offre, il le donne à celui qui croit sincèrement. Et c'est précieux d'avoir cette promesse et ces promesses. Celui qui est nourri des promesses de Dieu, il a des certitudes. Il sait où il va parce que Dieu l'a écrit, Dieu l'a dit. Il est sûr d'aller au ciel et d'être pardonné de ses péchés. Voilà, je vous résume courtement 5 preuves de l'amour de Dieu. Dieu nous a donné la vie et la vie physique. Et il y a plein de joie, plein de bonheur à vivre cette vie. Dieu nous a donné la liberté aussi de choisir et de nous déterminer. Et en fonction des choix que nous faisons, bien, il y aura des conséquences. À notre mort, il y aura des conséquences. Soit nous serons avec Dieu, soit nous serons jetés et éloignés, loin de Dieu pendant l'éternité. Mais il nous a donné aussi son Fils mort sur la croix, justement pour faire ce pont, hein, pour nous pardonner nos péchés, nous réconcilier. Et quand on le fait, on fait ce pas, on reçoit le Saint-Esprit et tout ce qui va avec. Et Dieu nous donne enfin des certitudes, une espérance vivante. Mais il nous reste à faire un choix. Et je termine simplement en vous lisant un dernier verset. Dieu a dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie.